D'un seul cœur, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous poursuivons cette troisième journée de retraite qui, en même temps, est un moment important puisqu'avec cet entretien de cet après-midi, nous passons la moitié de la retraite. Nous sommes arrivés à la moitié, nous entrons dans la deuxième partie. Et c'est peut-être le moment où le prédicateur doit vous rendre attentif à la question de la météo. Alors, pas la météo extérieure, celle-là, elle nous impressionne. Il y avait un ciel bleu à 14h et il neige maintenant. C'est en même temps, c'est le temps de l'hiver. Mais peut-être de vous rendre attentif d'abord à votre météo intérieure. Où en êtes-vous ? Sans se prendre le pouls, vous savez. Sans se prendre le pouls. Beaucoup d'auteurs spirituels nous disent à force de se prendre le pouls, on finit par tomber malade. Donc, ce n'est pas le but de l'opération. Mais comme ça, tout simplement, de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis à mi-retraite ? D'abord, pour garder, je vous l'avais dit dès le début, pour garder la concentration nécessaire, le silence extérieur. Je vous trouve tout à fait remarquable, je vous le dis, mais je pense que c'est bien de se le redire, d'être attentif. Parce que très vite, on peut relâcher, ce qui n'est pas le cas. Mais quand même, soyons attentifs, restons dans cet esprit, donnons-nous, faisons-nous la grâce du silence. Mais il y a aussi le silence intérieur. Où est-ce qu'on en est de son silence intérieur ? Du bruit intérieur, du cinéma intérieur. Est-ce que je suis en paix ? Est-ce que je suis agité ? Comment êtes-vous ? Dans la désolation, dans la consolation. Et peut-être même en commençant à vous dire, tiens, dans ces entretiens, peut-être quelle est la rencontre qui résonne le plus en moi. Parfois, c'est une rencontre qui va vous accompagner dans les semaines et les mois à venir. Parce qu'elle vous aura dit quelque chose, peut-être, pour vous aider à grandir. Dans votre vie intérieure, pour vous renouveler. Donc, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis ? Quelle est ma météo intérieure ? Est-ce qu'il y a de l'agitation ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Le texte, les textes, la parole de Jésus, qu'est-ce qui me fait bouger ? Et nous poursuivons notre chemin. Je vous avais dit, aujourd'hui est une journée plus particulièrement articulé autour du combat spirituel, de ce qui va rendre difficile notre union avec le Christ. Et je vous avais annoncé, ce matin, nous avons parlé du mal choisi, c'est-à-dire le péché, comment le péché peut entrer dans notre vie, en particulier par le combat spirituel, et combien la miséricorde est présente pour nous relever. Et cet après-midi, si vous voulez bien, nous allons parler du mal subi, ce qu'on appelle la blessure. Alors je sais que parfois, la blessure, c'est devenu une sorte de mot-valise qu'on utilise dès qu'on ne sait plus quoi dire. Et en même temps, il correspond à quelque chose de réel dans la vie. J'ai la grâce, la joie, je serais vraiment ingrat de ne pas être autrement et dans un autre état d'être archevêque de Tours. Et vous le savez, c'est à Tours que le pape Jean-Paul II était venu, saint pape Jean-Paul II, à la basilique Saint-Martin, et qu'il avait fait une intervention tout à fait remarquée et remarquable sur les blessés de la vie, justement. Parce qu'il y a une réalité des blessures dans la vie. Alors nous allons en parler, si vous voulez bien, à partir donc de cette rencontre d'un aveugle de naissance au chapitre 9 de Saint Jean. Nous avions quitté Jésus ce matin alors qu'il venait d'échanger avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère et qu'il l'a libérée définitivement de son mal. Et si vous avez regardé la suite du chapitre 8, vous avez comme l'apogée de la tension entre Jésus et ses détracteurs. Avec cette très violente altercation qui se termine par ce passage tout à fait extraordinaire. Quand Jésus parle de son père, et lorsque les Juifs en particulier lui disent qu'eux sont de la descendance d'Abraham, ils ont Dieu pour père, et qu'ils contestent à Jésus d'avoir Dieu comme père, il termine à partir du verset 56, « Abraham, votre père, a exulté dans l'espoir de voir mon jour, il l'a vu, et il a été transporté de joie. » Sur quoi les Juifs lui dirent, « Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, égoïmi en grec, l'identité de Dieu. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Voilà. Là, il n'y a même plus d'organisation d'une arrestation, on n'en est même plus à organiser des traquenards pour piéger Jésus. La violence est telle qu'on veut le lapider sur place. Donc on prend des pierres et on veut le lapider. Et Jésus parvient à s'en aller au milieu de la foule. Et c'est là que commence notre passage. Je vais le lire, si vous le permettez. C'est un peu long, mais je pense que c'est important qu'on se le mette dans l'oreille avant d'entrer dans le texte. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas lui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est bien lui », d'autres disaient « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'aveugle affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Alors moi, je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là ? Il répondit, je n'en sais rien. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient, « Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Ils posèrent cette question aux parents. « Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors comment voit-il maintenant ?» Les parents leur répondirent, « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est bien né aveugle. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le. Il est assez grand qu'il s'explique lui-même à son sujet. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. » Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons-nous que cet homme est un pécheur ?» Il leur répondit « Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ? Les pharisiens se mirent alors à l'injurier. Ils disaient, « Toi, tu es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien là en effet l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils ripostèrent. « Tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et lui de répondre, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » L'homme dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, afin que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Voilà ce passage qui est assez fort et qui a même un aspect un peu comique par moment. Ce dialogue entre Jésus et cet aveugle de naissance qui sera mon premier point, la rencontre avec l'aveugle. Qu'on pourrait intituler le chemin vers la foi. Puis dans un deuxième temps, nous nous arrêterons sur la question des blessures. Cet homme est un homme blessé, un manque est en lui. Et nous essaierons de nous dire qu'est-ce que c'est que la blessure dans la vie spirituelle. Pour enfin aborder le troisième temps, le discernement entre blessure et péché, et pour voir comment l'un comme l'autre participe à notre vie spirituelle, et peut-être en terminant encore un petit point sur le combat spirituel particulier des prêtres. Je verrai selon le temps que j'aurai. La rencontre d'abord de l'aveugle de naissance, ce chemin vers la foi. C'est Jésus qui est en train de fuir la violence de ses congénères, qui passe devant un homme aveugle de naissance, nous dit l'Évangile, mais ce sont ses disciples qui vont lui poser la question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus, en fait, voit cet homme, voit qu'il est aveugle de naissance, entend la réponse de la question de ses disciples, mais, et cela est peut-être décevant pour nous, parce que ce serait pratique d'avoir un petit traité que Jésus nous aurait laissé sur le mal, mais Jésus, vous l'avez entendu, ne va pas répondre directement. Il ne va pas répondre directement, même si Jésus, dans son enseignement en général dans l'Évangile, donne un certain nombre de points d'éclairage sur la question du mal, mais pas un enseignement systématique, bien évidemment. Jésus, en particulier, va bousculer ce qu'on appelle la vieille théologie d'Israël. Qu'est-ce que c'est que la vieille théologie d'Israël ? C'est la théologie qui est dans le psaume 1er et qui nous rappelle que l'homme qui vit droitement devant le Seigneur, eh bien, aura une vie bonne et comblée, et celui qui suit les chemins du mal, eh bien, celui-là connaîtra tous les malheurs de la vie. Or, on le sait bien, et on le sait dans la tradition sapientielle d'Israël, dans la tradition de sagesse, cette vieille théologie d'Israël ne marche pas. Elle est insuffisante. Et où le voit-on, bien évidemment, on le voit dans un livre fameux de l'Écriture qui nous parle d'un homme qui fait tout comme il devrait le faire devant Dieu et qui va perdre tous ses biens et se retrouver, vous le savez bien, dans une situation catastrophique. Donc la tradition d'Israël elle-même, sa tradition de sagesse elle-même, a déjà compris que la théologie classique qui consiste à dire « il suffit de respecter la loi et tout ira bien dans une vie ou bien si on ne la respecte pas, tout ira mal, ne fonctionne pas. Les psaumes eux-mêmes parlent de personnes qui sont des méchants et dont la vie paraît pourtant une vie agréable. Plus encore, Jésus va dénoncer lui-même indirectement cette théologie de la rétribution, du bien pour ceux qui font le bien. En particulier, il va le faire dans l'Évangile selon saint Luc, lorsqu'il parlera de la tour de Siloé qui s'est effondrée et de ces hommes qui ont été massacrés par la garde d'Hérode. Il posera la question, ces hommes-là étaient-ils de plus grands pécheurs que d'autres? Pas du tout. Donc Jésus, très clairement, se détache de la théologie classique, de la rétribution, de la vieille théologie, comme on l'appelait en Israël, qui consistait à faire un lien direct entre le bien que l'on fait et Jésus et Dieu qui nous rétribue en sens en réciproque. Jésus donc ne répond pas à la question, même s'il nous donne quelques éléments dans l'Évangile. Et pourquoi ne nous répond-il pas sur la question du mal ? Il ne nous répond pas sur la question du mal parce qu'un des premiers effets du mal, c'est de se rendre inintelligible. Il ne répond pas à la question du mal directement parce que la question du mal est une question qu'on ne peut pas résoudre. Jésus ne donnera aucune réponse théorique à la question du mal qui obscurcit la conscience de l'homme. Jésus va répondre à travers ce qu'il va vivre. Il répondra au mal par la croix, mais ni par une leçon de philosophie, ni par une leçon de théologie. Mais par contre, ce qu'il va dire, et ce qui est déjà utile pour nous comme pasteur, c'est qu'il nous dit que cet homme, eh bien, si ni lui ni ses parents ne sont responsables de son état, Jésus détache donc la question du péché et de la maladie, il rompt le lien de causalité que l'on mettait. Jésus souligne par contre que les œuvres de Dieu vont se manifester en lui. Dieu va tirer un bien de ce mal. Dieu va passer à travers cette blessure. Qu'est-ce que va faire alors Jésus ? Jésus va faire un geste de guérison. Il va, après avoir parlé, cracher à terre, faire de la boue avec la salive, l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, ce qui est bien évidemment une allusion très claire au récit de création. Quand Dieu va, en Genèse 2, prendre de l'Adama et va modeler un homme, souffler, insuffler une haleine de vie. Et donc ce geste est un geste de recréation. Ce qui signifie bien que Jésus est venu pour nous guérir, nous recréer, non seulement pour guérir notre cœur, comme ce matin en Jean 8, mais pour une guérison plus profonde encore, de toute la personne. Et en même temps, ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est que Jésus va demander la collaboration de cet homme. Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. En fait, la guérison de l'aveugle-né est une synergeia, comme disaient les pères grecs. Une synergie. J'aime toujours, comme dans les entreprises aujourd'hui, on parle de synergie avec un air très sérieux, comme si on avait inventé le dernier terme important, alors que les pères de l'Église l'utilisaient déjà. C'est toujours un peu comique, ça. Voilà. La synergeia, c'est à la fois la grâce du Christ, la grâce de Dieu qui agit, et en même temps le consentement de la volonté de la personne. C'est cette coaction qui va amener à la guérison. Ce geste, qui bien évidemment, saint Augustin le dira en commentant ce passage, est une allusion fondamentale au baptême et à la grâce de l'illumination baptismale qui vient éclairer le cœur de l'homme enténébré dans le péché des origines. Mais aussi, ce passage nous montre l'accès progressif à la foi. Comment la foi est une illumination progressive de la conscience et du cœur de l'homme. On le voit très bien dans la progression du texte en quatre temps. D'abord, on s'intéresse au verset 8 aux gens du voisinage, ceux qui avaient l'habitude de le voir, car il était mendiant. Et on s'intéresse donc à ces personnes qui le connaissaient en demandant de vérifier l'identité de celui qui vient d'être guéri. Est-ce bien lui ? Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Il était mendiant, oui, c'était bien lui. Vous connaissez peut-être cet apophthegme des pères du désert qui est authentique, hein, je n'invente pas. C'est de la partie de la collection des apophthegmes, hein, de cet igoumène qui sort, de ce moine qui sort après avoir célébré la divine liturgie et qui voit un mendiant qui est là, sans bras, et il le reconnaît, il dit, mais je te reconnais, la semaine dernière tu étais aveugle et cette semaine tu es sans bras. Il dit, bah oui. J'étais aveugle, on m'a guéri, et mes bras m'en sont tombés. C'est un apophthegme, il est authentique. Donc, premier moment, c'est le moment où notre aveugle de naissance va identifier pour la première fois Jésus. Et alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts ? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, on m'en a frotté les yeux. Le premier contact de la foi, le premier éclairage dans la conscience de cet homme, il va accéder non seulement à la guérison de la vue physique, mais à la guérison de la vue théologale, de la foi, c'est la reconnaissance en Jésus d'un homme, l'homme qu'on appelle Jésus. Quand on vous a parlé la première fois de Jésus, quand vous étiez, je pense, tout petit, comme moi, d'abord on nous a montré un homme, statue, on nous a montré vu un homme, l'homme qu'on appelle Jésus. De là à penser que c'était la seconde personne de la Trinité, voilà, qui s'était incarné dans une humanité singulière, etc. Bon, c'est venu après, je pense, tout ça. Et puis, l'affaire continue. Puisqu'on a vérifié l'identité de cet aveugle, on va alors le conduire chez les pharisiens. Pourquoi ? Parce que Jésus, évidemment, a fait cette guérison le jour du sabbat. Et donc, les pharisiens vont l'interroger. Parce qu'ils sont divisés entre eux. Les uns disent, il ne pourrait pas être de Dieu et faire des choses pareilles. Les autres disant, il ne peut pas être de Dieu parce qu'il les fait contre la loi qui interdit de faire ce genre de geste le jour du sabbat. Alors, on s'adresse à l'aveugle et on lui demande, qui t'a ouvert les yeux ? Vous voyez comment la foi progresse ? Il répond, verset 17, c'est un prophète. La première réponse qu'il avait donnée, c'était l'homme qu'on appelle Jésus. Interrogé par les pharisiens, ça devient, c'est un prophète. Comme si la foi commençait à progresser dans sa conscience, l'illumination de la foi. Et on va... Après avoir fait la vérification auprès des personnes qui étaient autour de lui, son entourage, on va maintenant faire la vérification de l'identité auprès des parents que l'on fait venir. Est-ce bien votre fils ? Était-il bien aveugle de naissance ? Et les parents, vous avez bien compris, ne veulent pas répondre. Pourquoi ? Parce que les Juifs avaient prévu la sentence qu'on appelle la sentence de Nidui, qui signifiait excommunication, exclusion de la communauté, pour ceux qui prendraient le parti de Jésus. On arrive alors au verset 24. L'aveugle de naissance est passé une première fois devant les pharisiens. Voilà qu'une seconde fois, les pharisiens appellent l'homme. On imagine qu'entre les deux étapes, ils ont eux-mêmes réfléchi, ils se posent la question, ils continuent de débattre. Et on lui demande, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Voilà. Ils ont fait leur discernement, c'est un pécheur. Et c'est là où c'est assez extraordinaire, puisque... ces hommes qui sont des sages, des maîtres en Israël, un peu comme Nicodème qui était venu en disant « nous savons », ces hommes qui pensent savoir, c'est un aveugle qui est en train de recouvrer la vue et surtout qui accède à la lumière de la foi qui va les éclairer. Comment a-t-il ouvert les yeux ? Et là, il y a le petit aspect comique. Voulez-vous devenir, vous aussi, ses disciples, hein? Et il y a ce très beau moment où l'aveugle de naissance explique, éclaire ceux qui devraient être éclairés. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est bien là, en effet, l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Il est en train de leur montrer qu'ils ne savent rien, qu'ils pensent savoir. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Et c'est lui, désormais, qui a la certitude. Nous savons que Dieu, il parle comme Nicodème. Mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est lui qui est en train d'expliquer à ceux qui sont les experts ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qui évidemment provoque leur violence et leur remarque absolument haineuse. Ils ripostèrent, tu n'es que péché depuis ta naissance. Vous voyez, la vieille théologie d'Israël. Si tu es aveugle depuis ta naissance, c'est à cause de ton péché. Et tu viens nous faire la leçon, ils le jetèrent dehors. Mais vous voyez que dans ce troisième moment, comment est-ce que l'aveugle de naissance a appelé Jésus ? Il l'a appelé l'homme de Dieu. Première fois, c'était l'homme qu'on appelle Jésus. La deuxième fois, c'est un prophète. La troisième fois, l'homme de Dieu. Il ne lui manque plus que le dernier mouvement dans cette connaissance du Christ. C'est Jésus, alors qu'il prend l'initiative, apprenant qu'il venait d'être chassé et qui va alors lui faire passer sa profession de foi. Crois-tu au Fils de l'homme ? Et lui de répondre, qui est-il, Seigneur, pour que je croie ? Eh bien, tu l'as vu, c'est lui qui te parle. L'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Il a accès à la pleine foi. Et bien évidemment, le premier mouvement de la foi véritable le porte à mesurer toute la distance qu'il y a entre lui et celui qui est devant lui. Et cela l'invite à l'adoration et à la prosternation devant Jésus. L'aveugle né a accueilli la lumière et les pharisiens restent dans les ténèbres. D'où la remarque de Jésus à la fin. Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Il n'y a pas de plus grand malade, vous le savez bien, que celui qui se croit en bonne santé. Les pharisiens sont des gens très bien. Le seul problème, c'est qu'ils le savent. Et cela gâte tout. Le contentement d'eux-mêmes les aveugle. Cela nous conduit à nous poser la question de la place de la blessure dans la vie spirituelle et peut-être d'abord de ce qu'est la blessure, en quelques mots. C'est important d'en parler parce que le péché et la blessure, nous avons parlé du péché ce matin déjà, le péché et la blessure sont deux choses différentes. C'est mon deuxième point donc que j'aborde. Le péché et la blessure sont deux choses différentes qui demandent d'abord d'analyser leurs causes pour être capable ensuite, bien évidemment, d'utiliser les bons remèdes pour permettre aux gens de grandir. On confond souvent le péché et la blessure parce que les effets du péché et de la blessure sont similaires. Dans une vie spirituelle, péché et blessure peuvent avoir des effets similaires. Mais le péché et la blessure sont deux choses très différentes. Il faut nous rappeler, c'est notre foi chrétienne qui nous dit cela, je dirais même notre foi catholique, plus précisément, l'homme a été créé très bon pour louer, bénir et servir Dieu, comme dirait saint Ignace. Il est une structure ouverte, avec une capacité relationnelle, avec Dieu, avec ses frères, avec lui-même, avec le cosmos dans lequel il est. Les quatre grandes relations qui qualifient une vie. L'homme est donc ouvert à la vie de Dieu, et il est fait pour pour vivre de Dieu. Au contraire, le péché et la blessure produisent dans l'homme une résonance d'un autre type. Alors que nous avons été créés en vue du bien pour louer, bénir Dieu, comme je l'ai dit, le péché et la blessure vont produire en nous des résonances d'un tout autre type. Le péché et la blessure produisent en nous de la disharmonie, de la tristesse, du repli sur soi, parfois du désespoir, de l'angoisse. Mais en même temps, si péché et blessure, comme je l'ai déjà dit, ont des effets similaires, leur cause est différente. Et c'est important de bien distinguer. Le péché, rappelons-le, est de l'ordre de l'agir. C'est un acte humain. Il engage donc notre responsabilité, si nous sommes libres et éclairés. C'est un mal voulu. C'est la préférence d'un bien limité par rapport à Dieu, qui est le bien total qui s'offre à nous. Et quand nous œuvrons comme confesseurs, nous vérifions la volonté, l'intention et la liberté du sujet face au péché. La blessure, elle, n'est pas de l'ordre de l'agir. La blessure, elle, est subie. C'est un mal subi. Ce n'est pas un acte humain, c'est un acte de l'homme, comme on dit. Et la blessure, qui, comme dit, peut avoir les mêmes effets que le péché, la disharmonie, la tristesse, le repli sur soi, le désespoir, l'angoisse, la blessure, en fait, vient d'un manque, d'un dysfonctionnement personnel, d'une réalité non achevée en nous. Quelque chose en nous ne marche pas, ne fonctionne pas. Sachant que le péché, évidemment, nous rend responsables de ce que nous faisons, et que la blessure ne nous rend pas totalement irresponsables. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables de la blessure elle-même. On va y revenir. Imaginons une blessure liée à l'enfance, par exemple. On n'est pas responsable d'avoir dans sa vie eu un traumatisme. Par contre, nous sommes responsables, à partir du moment où le péché est repéré dans nos vies, de travailler à partir de cette blessure, et surtout de ne pas nous enfermer, ce qui est un peu une tendance aujourd'hui, dans une posture victimaire autour de notre blessure. Ce qui est un risque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, il ne faut surtout pas les toucher, ils ont été blessés un jour dans leur vie. Je ne sais pas combien nous sommes exactement à l'unité près, mais je pense que chacun d'entre nous a aussi eu son événement et a pu le blesser à un moment donné de son histoire. Ensuite, chacun fait avec ce qu'il peut faire. Et chacun fait avec les moyens qui lui sont donnés. Donc veillez bien, le péché et la blessure ont des effets similaires, mais une cause différente. Quelle en est la cause, en effet? L'homme a été créé dans l'harmonie avec Dieu, ajusté à Dieu. Mais l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, puisqu'il est créé dans la liberté, peut pécher. Vous savez bien, je ne vous apprends rien, c'est du catéchisme. Et ça veut dire qu'il peut faire des choix contre Dieu, qu'il peut briser la vie de communion avec Dieu. Et c'est alors sur cette vie brisée, abîmée, que la blessure va se greffer et va déstabiliser la personne en profondeur. La blessure se greffe sur le péché. Sur le péché des origines. Bien évidemment. Alors vous allez me dire, tout cela est bien beau, mais nous avons quand même reçu le baptême. Nous avons reçu le baptême, oui, qui nous justifie, qui nous régénère pour une relation nouvelle avec Dieu, que nous pouvons appeler du nom de Père. Nous sommes incorporés dans le Christ. L'inhabitation trinitaire vient faire que Dieu habite en nous. Par la grâce, la vie surnaturelle nous est donnée, mais cela n'empêche pas d'abord de rester fragile par rapport au péché. C'est le Concile de Trente qui dit que malgré le baptême, nous restons, c'est sa formule, fomes peccati, inflammables au péché. Mais surtout, notre humanité fragilisée par les conséquences du péché originel qui demeure, elle reste sensible à la possibilité de la blessure. Le terrain fragilisé, c'est ce terrain sur lequel les blessures peuvent s'enquister et se produire. Vous savez bien, c'est la formule de Paul, Romains chapitre 7, verset 15. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, la blessure, où va-t-elle se loger? J'en donne juste quelques éléments pour vous éclairer. Vous avez peut-être déjà travaillé ces choses-là, bien évidemment. La blessure, bien sûr, peut se situer d'abord dans la corporéité. On le voit avec l'aveugle de naissance. Un bien qui est dû, la vue, n'est pas présent. Il y a la cécité. Sachant bien que ce mal n'est pas le contraire du bien qui est dû, comme dit saint Thomas, il y a un organe de la vue, il n'y a pas d'organe de la cécité. Pas tout à fait la même chose. Mais la blessure peut être dans la corporéité, la blessure peut aussi être dans l'intelligence et dans la volonté. Une volonté aboulique, une intelligence pervertie. Cela arrive. Mais la blessure se situe, dans la très très grande majorité des cas, dans ce qu'on appelle l'affectivité. J'ai eu un cours de 6 mois avec Charles-André Bernard à l'Institut de spiritualité sur la théologie affective. Je ne vais pas vous redonner tout ça, mais juste pour vous donner 2-3 petites lumières, pour nous dire de quoi nous parlons. Qu'est-ce que c'est que l'affectivité? L'affectivité, c'est l'ensemble de nos émotions et de nos sentiments que nous éprouvons tout au long du jour et qui sont liés aux 2 grands dynamismes qui traversent notre vie et qui fait que nous sommes des êtres vivants. Quels sont ces 2 grands dynamismes de la vie? Le premier dynamisme, c'est ce qu'on appelle le concupiscible ou le désir. Ce qui caractérise le vivant, c'est le désir. Chaque matin, quand vous vous réveillez, votre désir s'éveille avec vous, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de votre café, vous avez envie de voir le temps qu'il fait dehors, etc., etc. C'est le désir qui nous porte. C'est le moteur de la vie, le désir. Sachant que, comme le dira Aristote, nous n'avons à son égard qu'un pouvoir diplomatique. Donc ça s'éduque, le désir. Donc le premier mouvement affectif, c'est le désir. C'est le mouvement qui nous porte vers le monde. Pourquoi? Parce que nous avons un certain nombre de besoins, besoins qui peuvent être des besoins physiques, matériels, des besoins relationnels, des besoins intellectuels, des besoins spirituels. Et donc notre affectivité, tous les mouvements affectifs, le désir va les accompagner pour obtenir l'objet que nous recherchons avec notre désir. Par exemple, je me lève le matin, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon café, parce qu'avant, je n'arrive pas à me redéplier en 3 dimensions, hein, voilà. Et donc, une fois que j'arrive à mon café, je consomme mon café et mon désir s'apaise. C'est la mécanique du désir. Quand le désir trouve son objet, le désir s'apaise. Jusqu'au moment où un autre désir nous pousse en avant. Et vous savez qu'en psychologie, quand il n'y a plus de désir, quand il y a un arrêt du désir, on caractérise cela par l'état de la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est quand il n'y a plus de désir. Il n'y a plus d'énergie de vie. Donc le désir est une bonne chose en soi. Mais nous n'avons qu'à agir diplomatique par rapport à lui. Il faut l'éduquer et il faut lui donner des objets qui soient compatibles avec les choix que nous faisons avec notre intelligence et notre volonté, c'est-à-dire les choix moraux, les choix spirituels qui sont les nôtres. Donc le désir trouve son apaisement quand il trouve son objet. Et en même temps, parfois le désir ne trouve pas son objet. Par exemple, je me lève, je vis en communauté avec des frères, je sens l'odeur du café dans le couloir, ça y est, je vais arriver à ce qui va enfin m'apaiser, et que se passe-t-il ? Il n'y a plus de café. Il n'y a plus que l'odeur. Et non seulement il n'y a plus que l'odeur, mais quand je cherche du café dans le placard, là, vous le cherchez habituellement, nous sommes dimanche et il n'y a plus non plus de café. Et alors apparaît le second mouvement affectif. L'irascible, bien évidemment, ou la colère, c'est-à-dire ce mouvement qui, lui, ne nous porte pas vers le monde, mais nous fait nous défendre de lui. Saint Thomas d'Aquin dit, par exemple, que dans le sacrement de la confirmation, augmente l'irascible pour défendre la foi. L'irascible nous permet de nous défendre, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Donc l'affectivité, c'est ce mouvement continu qui est en nous, de sentiments, d'émotions, et qui est généré, l'affectivité, généré par ce double mouvement affectif du désir et de la colère ou de l'irascible. Sachant que le gros travail sur l'affectivité, c'est de discipliner l'affectivité, sinon elle devient tyrannique. Et que le gros travail sur l'affectivité, c'est de passer de l'émotion au sentiment. Intégrer son affectivité, unifier son affectivité, c'est passer de l'émotion, qui est l'affectivité brute, au sentiment, qui est une affectivité intégrée. Et comment on le fait ? On le fait en passant par ce qu'on appelle la rationalisation et la temporalisation. La temporalisation, c'est-à-dire on va inscrire le mouvement affectif dans le temps et dans un projet. Par exemple, je suis marié, j'ai 3 enfants, et soudainement j'ai une émotion en voyant ma nouvelle secrétaire, pardonnez-moi de l'exemple, il faut en trouver un, c'est assez rapide à comprendre, voilà. J'ai une émotion, c'est un sentiment affectif. Le désir peut peut-être même me porter vers la personne, l'imagination s'enflamme. Tout le travail sur l'affectivité va être de passer de l'émotion au sentiment, c'est-à-dire je vais intégrer d'abord la temporalité, je vais me dire, bon, attention, je suis dans un projet de vie avec une épouse, des enfants, je ne vais pas sacrifier et détruire tout cela juste pour une émotion passagère. Et puis l'autre travail, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. C'est-à-dire je vais rationaliser sur cette réalité affective. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que je n'ai pas des valeurs auxquelles je suis attaché ? J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je n'ai pas envie de détruire mon couple, etc. Donc ma secrétaire, je la laisse où elle est et je continue mon travail. Voilà. Je vais un peu vite, d'habitude c'est plus compliqué, mais ça permet de comprendre. Ne me dites pas que vous n'en accompagnez pas des comme ça. Voilà. Donc voyez bien, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la blessure va se situer dans l'affectivité. Pourquoi ? Parce que nous sommes très bons mais fragiles, et que notre fragilité est particulièrement dans cette affectivité. Et que comme nous avons un certain nombre de besoins fondamentaux, si ces besoins fondamentaux, au cours de notre croissance psychologique, et en particulier dans l'enfance et dans l'adolescence, si ces besoins n'ont pas trouvé leur objet, si ces besoins n'ont pas trouvé à s'apaiser, eh bien le risque, c'est que se forment en nous comme des kystes dans l'affectivité qui vont nous rendre la vie plus difficile. Nous avons en effet un certain nombre de besoins élémentaires. Je ne vais pas vous faire un cours de psycho, mais il y a par exemple 3 grands besoins, on peut au moins évoquer ces 3-là, il y en a 7 grands besoins élémentaires, mais au moins les 3 plus importants que nous éprouvons tous dans nos vies. Le besoin d'aimer et d'être aimé. Nous avons tous eu ce besoin dès la petite enfance, dès que nous avons pris conscience de nous-mêmes, un besoin d'aimer et d'être aimé. Et on en a besoin après, et même quand on est prêtre, on a besoin d'aimer et d'être aimé. Mais on aime autrement, et on est aimé autrement que dans la vie de couple, etc. Un deuxième besoin fondamental qu'on a beaucoup dans l'enfance, c'est le besoin de sécurité. Et puis, un autre besoin, un troisième besoin important, c'est le besoin de gratification, de reconnaissance. On a tous besoin d'être reconnus. Et donc, vous voyez, quand ces besoins-là, dans l'enfance, n'arrivent pas pleinement à se stabiliser, à s'accomplir, le risque, alors, je vous l'ai dit, c'est que ce besoin n'arrivant pas à s'accomplir, le manque en nous fasse une forme de kyste dans l'affectivité qui va nous faire, pas nécessairement tout le temps, mais qui va nous mettre dans une forme de déséquilibre de l'affectivité ou de fragilisation de l'affectivité qui se reconnaît en particulier au niveau des symptômes par des réactions disproportionnées de l'affectivité. C'est comme ça, en général, qu'on repère. Ou la personne réagit de manière disproportionnée, ou bien la personne réagit de manière inauthentique. Disproportionnée ou inauthentique. Je donne un exemple très simple. Vous êtes au cours préparatoire ou au CE1, souvenez-vous, il y a une dictée ce matin, vous avez quitté votre maman, votre papa, qui savent bien que vous avez ce matin cette dictée, et puis finalement, ça se passe mal, vous êtes sur le chemin du retour de l'école à midi, vous savez que vous avez vraiment eu une mauvaise note, catastrophique, et vous savez que vous allez être obligé de dire ça à vos parents. Qu'est-ce que vous faites tout au long du chemin? Vous élaborez, même inconsciemment, la stratégie qui va vous permettre de sortir la tête haute de cette affaire. Et donc vous allez arriver joyeusement comme si de rien n'était. Et quand on va vous demander la dictée s'est bien passée, vous allez dire non, j'ai eu une mauvaise note, mais tout le monde a eu une mauvaise note. Tout le monde s'est fait avoir. Ça s'appelle un mécanisme de défense, et ce mécanisme en question s'appelle la rationalisation de l'échec. Voilà. Tous nous faisons ça. D'une manière ou d'une autre. Je vous ai donné un exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mode de fonctionnement qui nous permet de ne pas souffrir, de ne pas avoir mal, est justement ce qui va causer la blessure. C'est-à-dire qu'on va commencer habituellement face à une situation similaire dans la vie à réagir de cette manière-là. En esquivant la vérité, en esquivant notre responsabilité et en trouvant le moyen, le mécanisme, la stratégie qui va nous faire sortir la tête haute de la situation. Alors on dira c'est pas trop grave, sauf que 15 ans après on est devant son patron de la même manière, 30 ans après on est devant son évêque de la même manière, parce que c'est toujours, si la blessure est en nous, elle nous fera toujours répéter le même type de scénario et le même type de comportement. Donc, d'où l'importance de connaître la blessure, de la repérer dans nos vies, de la travailler, et c'est en particulier le rôle de l'accompagnement spirituel, et c'est aussi le rôle de la formation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en psychologie la névrose, hein, c'est quand on mesure qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en nous sans arriver à dire quoi. C'est un des signes de la blessure aussi. L'aspect inauthentique, l'aspect disproportionné, et puis l'aspect d'un sentiment de quelque chose qui ne va pas. En psychologie, c'est la différence entre la psychose et la névrose. Le psychotique ne sait pas qu'il ne va pas bien. Le névrotique sait qu'il ne va pas bien. Ça lui coûte plus cher, parce qu'il faut qu'il aille voir un psychologue. Le psychotique casse les pieds à tout le monde. Personne n'ose lui dire qu'il ne va pas bien. Ça va ? Je fais un petit excursus un peu, mais je crois que ça n'est pas inutile de nous dire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que, et j'en termine, parce que blessure comme péché concourt à notre croissance spirituelle. Ces deux réalités qui font partie de la vie, et vous savez bien, la question de la blessure, elle est de plus en plus travaillée en matière psychologique et spirituelle. Il ne s'agit pas de tomber dans un psychologisme, hein, mais en même temps, d'assumer en même temps cette réalité qui fait partie de la vie. Donc ces deux réalités, c'est mon troisième point, concourent à notre croissance spirituelle. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a quelques critères qui nous permettent de distinguer la blessure du péché. au niveau corporel, au niveau affectif et au niveau intellectuel. Il y a trois critères, des petits critères qui nous permettent de repérer. Au niveau somatique, au niveau du corps d'abord, la blessure en général ne vous laisse aucune trace. Vous avez, enfin, sauf si vous êtes gourmand et votre péché c'est de trop manger, ça laissera une trace dans votre corps. Vous allez prendre du poids, ça c'est sûr, mais l'acte propre de péché ne laisse aucune trace. Vous avez trop mangé, vous avez été trop gourmand un soir, voilà, une fois que vous avez passé la chose, ça ne vous laissera pas de trace. La blessure, par contre, quand on a une blessure dans sa vie, eh bien, la blessure peut avoir des manifestations somatiques. C'est le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, qui disait que le corps est le sacrement de l'âme. Le corps est le sacrement de l'âme. Et il y a des blessures qui se manifestent somatiquement. Par des problèmes de digestion, par exemple. Des problèmes d'eczéma. C'est le corps qui réagit, qui dit « j'en peux plus » ou « c'est trop difficile ». Parce que nous n'arrivons pas à parler, parce que nous ne mesurons pas nécessairement qu'il y a une blessure en nous. Et tout ce mécanisme de défense que nous avons mis en place. Le problème du sommeil aussi. Donc, il y a des effets somatiques de la blessure. Alors, ce n'est pas parce que vous dormez mal que vous avez une blessure. Voilà. Mais la blessure peut se manifester à travers des problèmes de sommeil. Deuxième type de critère pour reconnaître la blessure du péché sont les critères de la dimension affective. Je vous ai dit que péché et blessure produisent les mêmes disharmonies dans l'affectivité. La tristesse, on l'a dit, le repli sur soi, le désespoir, parfois l'angoisse, etc. Mais il y a une grande différence dans l'affectivité de ces perceptions de désespoir, d'angoisse, de tristesse, de repli sur soi. Il y a une grande différence si la cause est le péché et si la cause est la blessure. Si la cause est le péché, eh bien en général, ces mouvements intérieurs de tristesse, de désespoir, etc., sont transitoires. Et très rapidement, l'auto-justification revient. Quand on a commis un péché, on sait bien, on n'est pas tout à fait à l'aise. Mais très rapidement, on s'est retombé sur ses pieds. Hein. Voilà. Finalement, ça arrive à d'autres. Voilà. C'est pas si grave. Voilà. Puis ça va mieux. Quand il s'agit d'un effet lié à une blessure, en général, cette tristesse, cette angoisse, cette fuite, cette colère, ces mouvements affectifs déréglés intérieurement reviennent régulièrement. Sachant qu'on peut avoir des années durant lesquelles rien ne se passe et tout d'un coup, le souvenir de la blessure et de la cause de la blessure peuvent réveiller ces réalités-là. On le voit particulièrement, pardonnez-moi d'aborder juste en passant cette question, la question des abus. Très bien que des gens, pendant 20-30 ans, couvrent d'une chape de plomb une situation et puis tout d'un coup, un événement fait que ça va ressortir et que tout ressort. La psychologie, c'est une réalité complexe. Ce n'est pas seulement lié aux abus, je l'ai dit, ça peut être lié à d'autres choses. Un manque d'affection, le fait d'avoir été humilié publiquement quand on était enfant, ça, c'est des choses qui peuvent revenir à un moment donné. Alors, on peut en sourire tant qu'on n'en est pas victime, tant qu'on n'a pas à le porter, mais c'est quelque chose qui est réel et qui est documenté et dont on sait que ça arrive. Donc, la blessure dans les manifestations somatiques, la blessure avec ses manifestations affectives, je l'ai dit. Enfin, troisième critère qui nous permet de distinguer le péché de la blessure, en général, quand nous avons péché, c'est assez clair dans notre conscience. Par contre, quand il s'agit d'une blessure, on n'y comprend pas grand-chose. C'est la formule paulinienne, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Pourquoi ? J'y comprends rien. Je suis dépassé. Intellectuellement, je ne comprends pas. Comment ça se fait que je retombe toujours dans les mêmes choses ? Je ne cherche pas à me justifier, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que je réagisse de manière toujours aussi disproportionnée dans ces types de situations ? Alors que la personne qui a simplement commis un péché, qui a voulu le mal qu'elle a choisi, eh bien, bon, voilà, elle s'arrange très bien avec sa petite conscience, et c'est très clair dans sa tête, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. En tout cas, blessure et péché, alors, et je termine avec ça, blessure et péché vont avoir part à notre progrès spirituel. Le péché, vous le savez bien, bien évidemment, va nous aider à grandir spirituellement. Pourquoi ? Parce que nous apprenons du péché. Quand nous tombons, quand nous retombons dans tel trait, dans telle façon de faire, lorsque nous cherchons à nous justifier, lorsque nous cherchons à minimiser, eh bien, si nous reprenons ce qui s'est passé, en particulier dans l'accompagnement spirituel, dans le sacrement de la réconciliation, eh bien, nous sommes capables de voir là où nous avons manqué à notre devoir, là où nous avons été imprudents, et nous sommes capables d'en tirer des conséquences pour faire mieux la prochaine fois. Voilà. Ça nous permet de progresser. Donc le péché lui-même nous aide à grandir spirituellement. Nous le savons tous. Mais la blessure elle-même peut nous aider. Le fait de découvrir en nous des fragilités et des vulnérabilités participe à la pédagogie spirituelle. D'abord, la découverte de nos propres vulnérabilités, de notre propre blessure, nous rappelle les limites humaines et que nous en avons aussi. Ça aide en général à notre modestie. Sauf une blessure dont on ne guérit jamais qui s'appelle la finitude. Alors, c'est une limite humaine dont nous ne nous remettrons jamais. Sauf en passant dans la gloire, ou en tout cas dans la vie de Dieu. Donc la blessure nous rappelle nos limites humaines. Deuxièmement, la blessure nous apprend à nous aimer et à aimer l'autre avec ses faiblesses. On n'apprend pas à aimer les faiblesses, mais l'autre avec ses faiblesses. Troisième chose, la blessure, dans la vie des autres, mais dans nos propres vies d'abord, nous permet de grandir dans la dimension de la confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'elle nous guérit d'un certain pélagianisme qui nous fait penser que nous pouvons résoudre les problèmes par nous-mêmes. Quand je découvre ma vulnérabilité, quand je découvre ma fragilité, je suis bien obligé de consentir au fait que Dieu seul peut me sauver et que j'ai à me remettre entre ses mains et que j'ai besoin peut-être de frères, de sœurs pour m'y aider, que je ne peux pas tout. Et puis, enfin, la blessure nous ouvre à la compassion. La blessure nous ouvre à la compassion. En découvrant notre vulnérabilité personnelle, en découvrant celle des autres, notre cœur devient plus sensible à compatir à la souffrance de l'autre, à sa fragilité propre, et à l'accompagner avec sa fragilité. Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais prévu éventuellement de vous parler d'autre chose, mais ce serait trop long. Je vais m'arrêter ici. En vous invitant à reprendre ce texte, bien évidemment, et peut-être à réfléchir à cette question, à la lumière aussi du combat spirituel ce matin, et de la miséricorde, cette question alors de nos blessures, de notre péché, comment nous le vivons dans nos propres vies peut-être. Ça fait partie de l'apprentissage de la connaissance de soi. Mes limites, mes fragilités, mes blessures. Souvenez-vous de ce que je vous disais de François de Sales, parlant de l'âme humaine. Et rappelez-vous aussi que Sainte Thérèse d'Avila, quand elle parle de l'oraison, nous dit à quoi sert l'oraison. On répondrait très spontanément tout de suite à l'union à Dieu, ça n'est pas faux. Mais elle dit, l'oraison est aussi le lieu où nous apprenons à nous connaître. La connaissance de soi au cœur de l'oraison. Parce que dans l'oraison, en particulier dans l'oraison passive, Dieu nous éclaire sur nous-mêmes. Tout d'un coup, nous découvrons notre pauvreté. Combien de personnes dans des oraisons profondes, des oraisons de quiétude, tout d'un coup voient remonter des choses de leur vie et découvrent que Dieu veut leur mettre en lumière parfois des péchés qu'on avait laissés de côté et parfois des réalités de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir. On a tous des angles morts dans sa vie spirituelle. Donc je vous invite peut-être à reprendre cela et puis à vous poser aussi la question par rapport à l'accompagnement spirituel, le vôtre d'ailleurs, mais aussi les accompagnements que vous faites et comment vous intégrer ces dimensions sans bien évidemment jouer au psychologue, ce n'est pas votre rôle, mais en ayant quand même un minimum de connaissance de ces réalités pour aider et faire fructifier la vie des personnes qui viennent à vous. Si vous voulez bien, nous nous confions à la fin de cette journée à la Mère de Dieu. Elle qui a été épargnée des conséquences du péché originel, l'Immaculée Conception. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous.